Le testament d'un excentrique, deuxième partie, chapitre 5. Les grottes du Kentucky. D'après les cours du marché du 26 mai à Chicago, et les autres villes allaient suivre, le Lissiwag fut demandé avec un certain entrain et monta même à 3-7. Si, au début, la hausse n'avait pas été en sa faveur, c'est qu'il était à craindre qu'une jeune fille n'eût pas assez d'endurance pour résister aux fatigues de ses déplacements successifs. Et, en outre, sa maladie vint encore diminuer le peu de confiance qu'elle inspirait. Or, la santé de la cinquième partenaire ne laissait plus rien à désirer. De plus, le second coup de 12 avait été très heureux, puisque par 6 redoublés, il l'envoyait au Kentucky. D'une part, ce voyage ne comportait que quelques centaines de milles, et de l'autre, le Kentucky occupait la 38e case sur la carte. Il résultait de là que Lissiwag, en 2 bonds, avait franchi plus de la moitié des 63 cases. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que Jovita Follet agita triomphalement le pavillon jaune attribué à son ami, et qu'elle le vit déjà planté sur les millions de William J. Hyperbone. Donc, à supposer que Lissiwag se fût intéressé à ce que l'on augurait de ses chances, au revirement qui avait ramené à elle la faveur du public, elle aurait pu s'en montrer fière dès son retour à Chicago. Ce fut le 23, on le sait, que Lissiwag et Jovita Follet se hâtèrent de quitter Milwaukee, afin de ne point y être rencontrés par le mystérieux XKZ, ce qui les eut obligés d'abord à payer une prime simple, puis à céder leur place au septième partenaire, puis à recommencer la partie. Les deux amis revinrent dans la métropole illinoise en parfaite santé, et leur retour ayant été signalé dans les journaux, quelques reporters se présentèrent à la maison de Sheridan Street. La conséquence de cette visite fut que, dès le soir même, le Chicago Herald publia une interview de laquelle il ressortait que les jeunes filles étaient bien en forme, car maintenant on les appariait toutes les deux sous le pavillon jaune, ce qui n'était pas précisément pour déplaire à cette folle de Jovita Follet. En dépit des objurgations de celle-ci, elles restèrent 5 jours à Chicago. Il était inutile de se ruiner en dépenses d'hôtel et plus économique de rester chez soi. Il eût même été sage d'y demeurer jusqu'à la veille du jour où le télégramme de maître Thornbrock arriverait au Kentucky. Mais le 27, Jovita Follet n'y tint plus et elle dit « Quand partons-nous ?»«
Nous avons le temps, » répondit Lissiwag.
« Songes-y, jusqu'au 6 juin, et nous ne sommes encore qu'au 27 mai. Cela fait 10 jours complets. Et tu le sais, on peut se rendre au Kentucky en 24 heures. »
« Sans doute, Lissy, mais ce n'est pas seulement au Kentucky que nous allons, ni à Francfort, sa capitale. C'est au Mammoth Caves, une des merveilles des États-Unis, et même, paraît-il, des 5 parties du monde. Quelle occasion de visiter ces grottes, ma chérie! Et quelle excellente idée ce digne monsieur Hyperbone a eue de nous y envoyer!
Ce n'est pas lui, Jovita, ce sont les dés avec leurs points de 12.
Voyons, voyons, n'est-ce pas lui qui a choisi Mammoth Caves dans l'état du Kentucky? Aussi, je lui en saurais gré toute ma vie, et même toute la sienne, s'il ne reposait pas dans le cimetière d'Oxford. Il est vrai. S'il n'était pas dans l'autre monde, nous n'aurions pas lieu de courir après son héritage. Enfin, quand partons-nous?
Aussitôt que tu le voudras.
Alors, demain matin?
Soit. Mais, ajouta Lissiwag, nous devrons une dernière visite à Monsieur Marshall Field.
Tu as raison, Lissy.
Au cours de cette visite, Monsieur Marshall Field et le personnel de ses magasins ne ménagèrent ni les compliments ni les encouragements à la cinquième partenaire et à son inséparable compagne. Le lendemain, un express emportait les voyageuses pendant 130 milles, à travers l'Illinois jusqu'à Danville, près de la frontière occidentale de l'Indiana. L'après-midi, elles franchirent cette frontière et descendirent pour l'heure du dîner à Indianapolis, qui est la capitale de l'État, une ville de 100 000 habitants. À la place de Jovita Foley et de sa compagne, Awis T. Kimball eut certainement disposé de son temps pour explorer cet État, où l'extermination des indigènes fut entreprise dès le siècle dernier, et dans lequel les colons français fondèrent plusieurs établissements. Mais Jovita Foley crut devoir se borner à Indianapolis, que traverse la White River, avant de se jeter dans la Wabash, une cité des mieux entretenues de l'Union et dont elle ne put qu'admirer l'excessive propreté. Dans l'hôtel, fort convenable, où étaient logées les voyageuses, leurs noms, une fois donnés, on les prenait souvent l'une pour l'autre. Au cours de cette grande partie qui se jouait, il semblait même que Jovita Foley fût plus qualifiée pour y tenir un rôle que cette modeste Lissy Wag. Le 29, à 8h15, elles partirent par le premier train pour Louisville, situé sur la rive gauche de l'Ohio, à la frontière de l'Indiana et du Kentucky, État qui fut le grand défenseur de la cause abolitionniste. À 11h59, le voyage était terminé. On aurait eu beau dire à Jovita Foley que le Kentucky valait d'être visité, parce qu'il est un des plus riches de l'Union, depuis que la cession de la Louisiane lui a assuré les bouches du Mississippi, elle aurait répondu « Mammoth Caves !» qu'il est propice à tous les rendements de l'agriculture et de l'élevage, qu'il produit les meilleurs chevaux de l'Amérique et le tiers du tabac des États-Unis, elle aurait encore répondu « Mammoth Caves !» qu'il possède de grandes villes industrielles sur les bords de l'Ohio et des houillères dans la région des Alleghenies, elle aurait toujours répondu « Mammoth Caves !» Évidemment hypnotisée par ces fameuses grottes, Jovita Foley ne songeait pas plus à Covington et à Newport, qui sont les deux faubourgs kentuckiens de Cincinnati, déjà visités par Quebe et John Milner, qu'à Middlesbrough, ville naissante qui se prépare à devenir une grande cité, qu'à Francfort, la capitale actuelle de l'État, ou qu'à Lexington, l'ancienne capitale. Et pourtant, elle est si belle avec le réseau de ses larges rues, ses verdoyants ombrages, d'où tombe une délicieuse fraîcheur. Son université, célèbre dans toute la région du Sud, son hippodrome, renommé, sur lequel viennent lutter les meilleurs chevaux du Nouveau Monde. Il est vrai qu'était cet hippodrome aux limites restreintes comparé à cet immense champ de course de toute la République américaine, où luttaient les partenaires du match Hyperbonne, sous les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Non, pendant cet après-midi, les deux amis se bornèrent à parcourir les principaux wards de Louisville, à franchir le pont de 812 toises jeté sur l'Ohio, qui réunit la cité à ses annexes de New Albany et de Jefferson du territoire de l'Indiana, et dont l'ensemble contient une population de 200 000 âmes. Toutefois, elles ne s'aventurèrent pas dans les quartiers industriels, où abondent les usines, les manufactures de tabac, les fabriques de pelleterie, les filatures, les distilleries, les ateliers de construction pour la batellerie et les machines agricoles. Du reste, Louisville domine l'Ohio d'une centaine de pieds, sur le plateau d'une falaise coupée à pic. De là, le regard peut embrasser le cours irrégulier du fleuve, le canal qui longe sa rive gauche, les îles Sand et Coos, la ligne ferrée qui le traverse et les belles chutes formées par les eaux mugissantes du fleuve. Enfin, très fatiguée, Jovita Foley, qui n'en voulait pas convenir, et Lissy Wag, qui l'avouait, rentrèrent à l'hôtel vers 9h du soir. « Bonne nuit, » dit Jovita Foley en se couchant. « Et quand repartons-nous ? » demanda Lissy Wag. Demain matin. Si tôt, Jovita, alors que quelques heures suffisent pour arriver au terme de notre voyage. Nous avons le temps. Jamais le temps, lorsqu'il s'agit de Mammoth Caves, répondit Jovita Foley. Dors bien, ma chérie, je te réveillerai.
et qu'on ne soit pas surpris si le lendemain, 30, le train emportait ces deux demoiselles dans la direction du sud. Un parcours de 150 miles environ jusqu'aux célèbres grottes, à travers un pays un peu accidenté, hérissé de forêts profondes, entre lesquelles apparaissent des champs de céréales et surtout des plantations de tabac. Au-delà de la petite ville de Montfort, la seule que dessert la voie ferrée dans cette partie de la province, se développe la délicieuse vallée de Green River. Cet affluent de l'Ohio promène ses eaux limpides sous une tapisserie de plantes aquatiques, des nelumbos verts, des pontederia aux fleurs jaunes et bleues, couleurs qui rappelaient celles de Herman Tidbury, d'Arwist et Kimball, et aussi celles de Lissy Wagg. Avant midi, les deux amis descendirent à Mammoth Hotel, établissement de premier ordre, situé presque à l'entrée des grottes, au milieu d'un site enchanteur. Malgré la curiosité qui la dévorait, Jovita Follet dut remettre au lendemain la visite des Mammoth Caves, tous les guides étant partis à 7 heures. Mais elle pourrait occuper ses loisirs en se promenant aux alentours, en cheminant le long de cette vallée charmante, en remontant les rives ombreuses du Rio, qui par 1000 cascades va se jeter dans la Green River. L'hôtel est remarquablement approprié pour le bien-être des touristes qui y affluent. Il est composé de plusieurs chalets, affectés aux différents services et confortablement installés. Une chambre, dont la fenêtre s'ouvrait sur la vallée, fut mise à la disposition des voyageuses, lesquelles, ce qui n'était pas pour déplaire à l'une d'elles, étaient attendues avec une certaine impatience en cette région du Kentucky. À cette époque de l'année, affluaient déjà de nombreux excursionnistes, impatients d'explorer Mammoth Caves. Et c'est ce que Jovita Follet put constater vers 6 heures du soir, lorsque les retentissements du terrible gong, en usage dans les hôtels d'Amérique, les appelèrent au dining room. Le gouverneur de l'État de l'Illinois, John Hamilton, qui se trouvait là en qualité de touriste, voulut que Lissy Wagg fût placée à sa droite et Jovita Follet à sa gauche. N'y avait-il pas de quoi tourner la tête à cette impressionnable personne? Du reste, si le gouverneur de l'Illinois, son entourage et les autres visiteurs firent un accueil si sympathique à la 5e partenaire et à sa compagne, celles-ci ne furent pas moins bien accueillies par les dames venues en visiteuses aux grottes du Kentucky. On voit à quel taux étaient remontées les actions de Lissy Wagg, et n'était-ce pas de nature à laisser pressentir son succès final? Et ne pardonnera-t-on pas à Jovita Follet, qui eut sa part de ses attentions, de ses prévenances, de s'identifier de plus en plus avec sa chère Lissy, laquelle n'aurait pas eu la pensée de le lui reprocher? Le dîner, bien servi, préparé par les mains d'un cuisinier français, fut excellent et copieux, quoiqu'il ne comportât pas le grand nombre de plats ordinaires aux tables américaines. Soupe au gombo, petites fleurs semblables à des capucines, truites fraîchement pêchées dans les eaux du joli affluent de la Green River, à l'endroit où il s'élargit en lagon paisible. Roast beef traditionnel, avec toute la série de ses sauces à l'emporte-bouche, jambon fumé, plum cake national, légumes et fruits de toutes sortes. Et ne pas oublier les coupes de champagne qui furent envoyées par plusieurs des convives aux deux amis. Sans doute elles se contentaient d'y mouiller leurs lèvres, mais répondaient par un gracieux salut à ses politesses. Puis retentirent les toasts enthousiastes à la prochaine victoire de la charmante favorite du match Hyperbonne. Jamais Jovita Follet ne s'était trouvée à pareille fête. D'ailleurs, Lissy Wagg et elle gardèrent une parfaite dignité, non sans cette légère différence que, si l'une reçut ses compliments avec sa réserve naturelle, l'autre, plus démonstrative, les acceptait avec une visible satisfaction. Et lorsque toutes les deux, vers 10 heures du soir, furent rentrées dans leur chambre, « Eh bien, qu'en dis-tu ? » demanda Jovita Follet. « Je n'en dis rien, dit Lucy Wag. Comment? Tu n'es pas touchée de l'accueil qui nous est fait? De la manière dont nous a traité monsieur le gouverneur? De l'amabilité de ce monde de touristes qui va parler pour nous, j'en suis sûre.
Pauvres gens.
Et tu n'as pas envie de leur prouver ta reconnaissance en gagnant la partie?
J'ai envie de dormir, voilà tout, déclara Lucy Wag, et je vais me coucher en t'engageant à en faire autant.
Dormir, et le pourrais-je?
Bonne nuit, Jovita.
Soit, bonne nuit, la petite fée au million, répondit Jovita Follet, qui décidément avait peut-être fait un peu plus que de mouiller ses lèvres dans les coupes de champagne. Puis elle ajouta dans un demi-bâillement « Ah, que je voudrais être à demain !»
Demain arriva, comme d'habitude, et débuta par un beau lever de soleil qui précéda de 2 heures le lever de Jovita Follet. Lucy Wag ne put résister au pressant appel qui lui fut adressé de quitter son lit et de s'habiller, de telle sorte que dès 8 heures, toutes deux étaient prêtes à quitter l'hôtel. L'exploration des grottes du Kentucky dans leur ensemble, du moins pour ce qui est connu, exige, paraît-il, de 7 à 8 jours. L'artère principale s'étend sur une longueur de 3 à 4 lieues et l'immense excavation est, en mesure française, d'une contenance de 11 milliards de mètres cubes. Elle est sillonnée en tous sens par 200 d'allées, couloirs, galeries, passages, boyaux, et encore, convient-il de le répéter, il ne s'agit que de la partie actuellement découverte. Or, on était au 31 mai, et jusqu'au 6 juin, matin, Lucy Wag ne pouvait disposer que de 6 pleines journées. Mais, bien employé, ce temps devait suffire à satisfaire la plus curieuse des visiteuses, fût-ce cette vibrante Jovita Follet. C'est d'ailleurs en nombreuses compagnies que s'effectuèrent ces tournées successives, organisées sous la conduite des meilleurs guides attachés au service des grottes du Kentucky. Vêtus chaudement, car la température est fraîche au fond de ces cavités, les touristes des deux sexes prirent, à 9 heures, le sentier qui sinue entre les roches et conduit aux grottes. Ils arrivèrent devant l'étroite ouverture d'un massif, simple orifice de couloir, laissé tel que l'a fait la nature, et à travers lequel les hommes de haute taille ne peuvent s'engager sans baisser la tête. Les guides étaient accompagnés de nègres, portant des lampes de mine et des torches qui furent aussitôt allumées. Et sous la lumineuse réverbération produite par les 1000 facettes des parois, les visiteurs atteignirent un escalier taillé dans le roc. Cet escalier, qui continue une galerie plus large, mène directement à la vaste salle de la rotonde. C'est de ce point que se ramifient de multiples passages, dont il importe de bien connaître les sinuosités si l'on ne veut pas courir le risque de s'égarer en faisant l'économie d'un guide. Il n'existe pas de labyrinthe plus compliqué, sans excepter ceux de Lemnos ou de Crète. Ce fut par un large couloir que les touristes parvinrent à l'une des plus spacieuses cavernes des Mammoth Caves, à laquelle on a donné la dénomination d'église gothique. Gothique? Est-ce bien le style ogival qui caractérise l'architecture de cette substruction? Peu importe. Elle est merveilleuse avec les pendentifs de sa voûte, stalagmites et stalactites, les colonnes bizarrement contournées qui la soutiennent, les formes que prennent ces roches étagées dont la lumière met en relief les concrétions cristallisées, la disposition naturelle et si fantaisiste des roches, ici un autel où semblent s'entasser tous les ornements liturgiques, là un puissant buffet d'orgue dont les tuyaux montent jusqu'aux nervures des cintres. Là encore, un balcon, ou plutôt une chaire, de laquelle plus d'une fois des prédicateurs de rencontres ont parlé devant une assistance qui ne comptait pas moins de 5 à 6 000 fidèles. Il va de soi que cette société d'excursionnistes partageait les émerveillements de Jovita Follet et faisait sa partie dans ce concert d'admiration. « Voyons, Lucy, regrettes-tu le voyage ?»«
Non, Jovita, et c'est fort beau. Mais te dis-tu bien que tout cela est l'ouvrage de la nature? Que la main de l'homme n'aurait pu creuser ces grottes? Que nous sommes enfouis dans les entrailles du sol? Et je m'effraie, répondit Lissiwag, à la pensée que l'on pourrait s'y égarer.
Je te crois, ma chérie, et nous vois-tu perdues toutes les deux à travers les Mammoth Caves et manquant l'arrivée du télégramme de ce bon monsieur Thornbrock?
Il avait déjà fallu faire une demi-lieue depuis l'orifice d'entrée jusqu'à l'église gothique. En poursuivant l'exploration, il fut nécessaire à maintes reprises de se courber, de ramper même le long d'étroits boyaux pour atteindre la salle des revenants. Là, vif désappointement de Jovita Follet, à laquelle n'apparut aucun des fantômes que son imagination rêvait d'évoquer dans ses souterraines cavités. En réalité, la salle des revenants est un lieu de halte, empli de la lumière des torches, et dans lequel se trouvait un bar, fort bien tenu, où était préparé le déjeuner servi par le personnel de Mammoth Hotel. Cette salle mériterait d'être plutôt appelée le sanatorium, car c'est là que se rendent les malades qui accordent quelques vertus thérapeutiques à l'atmosphère des grottes kentuckiennes. Ils y étaient venus pour la journée au nombre d'une vingtaine, qui s'installèrent en face d'un gigantesque squelette de mastodonte auquel ces vastes hypogées doivent peut-être leur nom de Mammoth. Ce fut à cette partie des grottes que se borna la première visite, qui allait être suivie de plusieurs autres, lorsque les touristes eurent encore stationné dans une petite chapelle qui est comme la réduction de l'église gothique. Elle confine à un abîme insondable, dans lequel les guides jettent des papiers enflammés afin d'en éclairer les sombres profondeurs. C'est le « bottomless pit », dont la paroi creusée forme la chaise du diable, auquel se rattache plus d'une légende, et l'invraisemblable serait qu'il n'en eût pas. Après cette fatigante journée, les touristes ne se firent pas prier pour reprendre la galerie qui les ramena vers l'entrée des grottes, de préférence à une autre sortie par le dôme d'Amas, assez voisine de l'hôtel, mais dont on ne peut atteindre l'extrémité sans faire de longs détours. Un excellent dîner et toute une nuit de repos rendirent aux deux amis les forces nécessaires pour l'exploration du lendemain. Du reste, à parcourir ces merveilleuses cavernes, une promenade à travers le monde enchanté des mille et une nuits, même sans y rencontrer ni démons ni gnomes, on était généreusement payé de ses fatigues, et Jovita Follet convenait volontiers que ce spectacle dépassait les limites de l'imagination humaine. C'est pourquoi, pendant 5 jours, cette énergique personne, faisant preuve d'une endurance qui lassa la plupart des autres excursionnistes et les guides eux-mêmes, s'imposa la tâche d'explorer tout ce que l'on connaissait des célèbres grottes, avec le regret de ne pouvoir se lancer dans l'inconnu. Mais ce qu'elle fit, son ami eût été incapable de le faire, et Lissiwag dut demander grâce après la 3e journée. Ne pas oublier qu'elle avait été récemment fort malade, et il ne fallait pas qu'elle se mît dans l'impossibilité de continuer le voyage. Aussi, Jovita Follet ne fut pas accompagnée de Lissiwag pendant ses dernières excursions. Et c'est ainsi qu'elle visita la caverne du Dôme géant, qui plafonne à une hauteur de 75 toises, la chambre étoilée, dont les parois semblent être incrustées de diamants et autres pierres précieuses éblouissantes sous la lumière des torches, l'avenue Cleveland, tapissée d'une broderie de dentelles et de fleurs minérales, la salle de bal, dont les murs, sillonnés de suintements blanchâtres, sont couleur de neige, les montagnes rocheuses, entassement de blocs et de hauts pics a laissé croire que les chaînes de l'Utah et du Colorado se ramifient jusque dans l'intérieur du globe. La grotte des Fées, si riche en formations sédimentaires, entretenue par les sources souterraines, avec arceaux, piliers, et même une sorte d'arbre gigantesque, un palmier de pierre qui s'épanouit jusqu'à la coupole de cette salle située à 4 lieues de la principale entrée des Mammoth Caves. Et quel souvenir devait à jamais conserver l'infatigable visiteuse quand, après avoir franchi le portail du dôme de Goran, elle redescendit en barque le cours du Styx, lequel, comme un Jourdain des entrailles terrestres, va se jeter dans une mer morte. Mais, s'il est vrai que là, nul poisson ne peut vivre sous les eaux du fleuve de la Bible, il n'en est pas ainsi dans ce grand lac hypogéique. C'est par myriades qu'on y pêche des cyrrhodons et de ces cypronidons, dont l'appareil optique est complètement oblitéré, semblable aux espèces sans yeux que possèdent certaines eaux du Mexique. Telles sont les incomparables merveilles de ces grottes, qui n'ont encore livré qu'une partie de leurs secrets. Sait-on ce qu'elles réservent à la curiosité de l'univers? Et ne découvrira-t-on pas un jour tout un monde extraordinaire dans les entrailles du globe terrestre? Enfin, les 5 jours que Jovita Follet et sa compagne devaient rester à Mammoth Caves entendirent sonner leurs dernières heures. C'était le 6 juin que la dépêche devait parvenir au bureau même de l'hôtel. Grâce à l'intérêt que cette agglomération de touristes portait à la 5e partenaire, la matinée du lendemain se passerait dans une attente fiévreuse, une impatience que Lissy Wagg était seule peut-être à ne point ressentir. Ce soir-là, le dîner vit recommencer avec une plus chaleureuse ardeur les toasts de la veille. Et avec quelle force éclateront les hurrahs lorsque John Hamilton, suivant la règle adoptée par les gouverneurs d'admettre des dames en leurs états-majors, nomma Lissy Wagg colonel et Jovita Follet lieutenant-colonel dans la milice illinoise. Si l'une de ces nouveaux officiers, toujours modeste, se sentit quelque peu gênée de tant d'honneur, l'autre les accueillit comme si elle avait toujours porté l'uniforme. Et le soir, lorsque toutes deux se furent retirées dans leur chambre, « Eh bien !» s'écria Jovita Follet en faisant le salut militaire. « Est-ce assez complet, mon colonel ?»«
C'est folie pure !» répondit Lissy Wagg. « Et cela finira mal, je le crains. »
« Veux-tu te taire, ma chérie, ou j'oublie que tu es mon supérieur et je te manque de respect ?» Et là-dessus, après un bon baiser, elle se coucha et ne tarda pas à rêver qu'elle était nommée générale. Le lendemain, dès 8 heures, le monde de l'hôtel se pressait devant le bureau du télégraphe en attendant la dépêche expédiée de Chicago par les soins de maître Thornbrock. Il serait malaisé de peindre l'émotion de ce public sympathique qui entourait les deux amis. Où le sort allait-il les diriger? Serait-elle envoyée au bout de l'Amérique? Prendrait-elle une grande avance sur leurs concurrents? Une demi-heure après, le timbre de l'appareil résonna. Une dépêche arrivait au nom de Lissy Wagg, Kentucky, Mammoth Hotel, Mammoth Caves. Un profond, on pourrait dire... un religieux silence s'établit au-dedans comme au-dehors du bureau. Et quelle fut la stupéfaction, le désappointement, le désespoir même, lorsque Jovita Follet lut d'une voix tremblante « 14 par 7 redoublé, 52e case, Saint-Louis, État Missouri, Thornbrock ». C'était la case de la prison, où, après avoir payé une triple prime, allait rester la malheureuse Lissy Wagg jusqu'au moment où un non moins malheureux partenaire viendrait la délivrer en prenant sa place. Chapitre 6. La vallée de la mort. Le 1er juin, dans la matinée, au sortir de Stockton, petite ville californienne située dans l'ancien bassin lacustre du San Joaquin, un train filait à toute vitesse en direction du sud-est. Ce train, uniquement composé d'une locomotive, d'un wagon et d'un fourgon, était parti en dehors des indications de l'horaire, 3 bonnes heures avant celui qui traverse les territoires méridionaux de la Californie,
ligne de Sacramento à la frontière de l'Arizona. L'État de Californie occupe le deuxième rang dans la Confédération américaine, avec une superficie de 158 000 miles carrés. Il est limité au nord et au sud par 2 degrés de latitude, à l'est par une ligne brisée dont l'angle s'appuie au lac de Taou et la Colorado River, à l'ouest par l'océan Pacifique, qui baigne son littoral sur une étendue de 600 milles. Si l'on répand sur ce vaste territoire une population de 1200 000 âmes, très mélangée, d'origine européenne, américaine, asiatique, immigration due à la découverte des mines d'or après le traité de 1848 par lequel le Mexique céda le domaine californien à la République fédérale. On n'y trouvera qu'une densité assez faible d'habitants. Le pays que dévorait le train spécial ne semblait pas attirer l'attention de ses voyageurs, emportés avec une extraordinaire rapidité. Et d'abord, en contenait-il ? Oui, assurément, car de temps à autre, deux têtes apparaissaient derrière la vitre, puis disparaissaient aussitôt. Deux figures rébarbatives, farouches pour mieux dire. Quelquefois, la vitre s'abaissait et laissait passer une large main velue qui tenait une courte pipe dont elle secouait les cendres et qui rentrait à l'instant. Peut-être, dans la partie septentrionale de l'État, ces voyageurs eussent-ils mieux observé ce territoire. Au nord et au centre, les campagnes, très favorables à l'élevage, sont remarquablement cultivées, très fertiles d'ailleurs, grandes productrices de froment, d'orge surtout, dont les épis ont de 12 à 15 pieds, de maïs, de sorgho, d'avoine. On y voit des vergers où foisonnent pêches, poires, fraises, cerises, véritables forêts d'arbres fruitiers. Enfin, des vignobles, d'un tel rapport que la Californie seule peut produire le tiers de la récolte américaine. Et toutes ces richesses sont livrées par un sol généreux, inépuisable, qu'entretient un admirable système d'irrigation. Il ne faudrait pas croire, cependant, qu'il fût improductif, ce bassin arrosé par le Saint-Joachim et ses tributaires. Leurs eaux dérivées lui ont assuré un sérieux rendement agricole. Mais les voyageurs ne le regardaient pas plus que s'il eût été voué à la stérilité, comme 50 ans auparavant, alors que la main de l'homme ne s'y était pas fait sentir. La Californie jouit d'un climat particulier. Les chaleurs y sont plus accusées en septembre qu'en juillet. Ces lignes isothermiques n'y suivent pas les mêmes parallèles que dans le reste de l'Union. Quant aux tourmentes nées sur l'immense aire du Pacifique, elles ne se propagent pas toutes à sa surface. Les unes sont arrêtées dès les montagnes côtières. Les autres vont buter contre l'échine de la Sierra Nevada. Là, elles se résolvent en pluie très favorable à la prospérité de ces conifères, qui, à partir d'une hauteur de 5 à 600 toises, pins, sapins, ifs, mélèzes, cèdres, cyprès, hérissent les flancs de la chaîne. Il est tel de ces arbres, les séquoias, les big trees, appelés Willingtonia par les Anglais et Washingtonia par les Américains, qui ne mesurent pas moins de 60 pieds de circonférence sur une hauteur de 300. Qu'étaient-ils donc, ces indifférents voyageurs? D'où venaient-ils? Où allaient-ils? Était-ce d'ardents Californiens, brusquement appelés par la découverte de nouvelles poches, des chercheurs de nouveaux placés? Car il est toujours permis d'espérer que les 6 milliards de francs, extraits depuis une quarantaine d'années, n'ont pas épuisé les derniers gisements de ce sol aurifère. Et d'ailleurs, il renferme d'autres mines précieuses, surtout aux abords de la chaîne littorale, du cinabre, du sulfure rouge de mercure, du vermillon natif, qui, dans les exploitations de New Almaden, entre 1850 et 1886, n'ont pas rendu moins de 100 millions de livres, soit 100 000 tonnes. Après tout, ces voyageurs pouvaient être de ces fondateurs de Bonanza Farm, membres des grands syndicats d'exploitations agricoles,
gens très redoutables aux petits cultivateurs par l'abondance des capitaux que leur fournit l'Angleterre. Et comment l'argent ne serait-il pas attiré là où la vigne donne des grappes de plusieurs livres et le poirier des poires d'un pied et demi de tour? Aussi, de même que le Texas possède des fermes d'un million d'hectares, il s'en rencontre en Californie, dont la superficie couvre jusqu'à 1200 km². Dans tous les cas, ce devaient être des gens très riches et même très pressés, puisqu'ils s'accordaient le luxe d'un train spécial, alors qu'ils avaient à leur disposition les trains réglementaires du Southern Pacific. Cela ne leur eût coûté qu'une demi-journée de retard, et non ces quelques milliers de dollars dont ils n'avaient pas cru devoir faire l'économie. Enfin, la locomotive filait à toute vapeur, et comme les trains ne sont pas nombreux sur cette ligne, le graphique avait pu être établi sans difficulté. Au surplus, il ne s'agissait que d'un parcours relativement restreint. Sur l'embranchement qui se détache de Benoît, passe par Carson City, la capitale du Nevada, pénètre dans l'État de Californie à la station de Bentham et se termine à celle de Keller. Environ 240 miles, lesquels seraient enlevés en 6 ou 7 heures. Et c'était bien ce qui fut fait en ce laps de temps, et sans qu'un accident eût entraîné le plus léger retard. Il était 11 heures du matin, lorsque la locomotive poussa ses dernières éructations, un quart de mille avant d'atteindre la gare de Keller, où elle vint s'arrêter. Deux hommes sautèrent sur le quai, avec un bagage réduit au strict nécessaire, une valise et une caisse de provisions, qui ne semblaient pas encore avoir été entamées. Chacun d'eux portait également un sac de voyage et une carabine en bandoulière. L'un de ces hommes s'approcha de la locomotive et dit au mécanicien « Attendez !» comme s'il se fût agi d'un cocher dont on quitte la voiture pour une visite. Le mécanicien fit un signe affirmatif et s'occupa de remiser son train sur une voie de garage, de manière à laisser la circulation libre. Le voyageur, suivi de son compagnon, se dirigea alors vers la sortie et se trouva en présence d'un individu qui guettait son arrivée. « La voiture est là ?» demanda-t-il d'un ton bref. « Depuis hier. »« En état ?»« En état. »« Partons. » Un instant après, les deux voyageurs étaient installés à l'intérieur d'une confortable automobile, actionnée par un puissant mécanisme qui roulait rapidement dans la direction de l'est. On a reconnu, dans l'un de ses voyageurs, le Commodore Hurricane. Dans l'autre, son fidèle Turk, bien qu'ils ne se fussent abandonnés à leur irascibilité naturelle, ni contre le mécanicien du train spécial, qui d'ailleurs était en gare à l'heure dite, ni contre celui de l'automobile, qui était à son poste à Keller. Et maintenant, par quel miracle Hodge Hurricane, à demi-mort dans le post-office de Key West, le 25 mai, reparaissait-il 8 jours plus tard dans cette petite ville californienne, à près de 1500 miles de la Floride? En quelles conditions vraiment exceptionnelles s'était effectué ce parcours en un temps si limité? Comment, enfin, le sixième partenaire, poursuivi par une infernale malchance et qui ne semblait plus en état de continuer la partie, était-il là, plus résolu que jamais à la jouer jusqu'au bout? On n'a pas oublié que le naufragé de la Chicola avait été transporté, sans avoir recouvré connaissance, dans le bureau du télégraphe de Key West. La dépêche, expédiée le matin même de Chicago, était arrivée à midi précis. Et quel déplorable résultat elle annonçait! Un malheureux coup, s'il en fut. 5 par 2 et 3. Grâce à ce coup, le Commodore allait de la 53e case à la 58e, de la Floride à la Californie, tout le territoire de l'Union à parcourir du sud-est au nord-ouest. Et, circonstance plus désastreuse encore, c'était la case de la mort qui avait été choisie dans cet état par William J. Hyperbone. C'était à Death Valley que le partenaire devait se rendre en personne, et d'où une triple prime payée, il lui faudrait revenir à Chicago. Et cela, après avoir si bien débuté par un maître coup. Aussi, lorsque Hodge Hurricane, enfin rappelé à la vie par d'énergiques frictions et des potions non moins énergiques, fut fixé sur le contenu du télégramme, éprouva-t-il une secousse telle qu'elle détermina chez lui le plus terrible accès de colère dont Turk ait été jamais témoin. Cela le remit sur pied. Par bonheur pour les personnes présentes, il ne s'en rencontra pas une à qui le commodore pût s'en prendre, et Turk n'eut point, suivant son habitude, à le dépasser en violence. Hodge Hurricane ne prononça qu'un mot, un seul, un de ces mots de situation qui acquièrent une valeur historique. Partons. Un silence glacial accueillit ce mot. Turk dut dire à son maître où il était et où il en était. C'est alors que celui-ci apprit ce qu'il ignorait encore, le naufrage de la goélette, le transport des passagers et de l'équipage à Key West, où il ne se trouvait pas un navire qui pût appareiller pour un déport de l'Alabama ou de la Louisiane. Hodge Hurricane était cloué comme Prométhée sur son roc, et son cœur allait y être dévoré par le vautour de l'impatience et de l'impuissance. En effet, il fallait que dans les 15 jours qui lui étaient dévolus, il se fût transporté de Floride en Californie et de Californie en Illinois. Décidément, le mot « impossible » est de toutes les langues, même de la langue américaine, bien qu'il passe généralement pour avoir été rayé de son dictionnaire par les audacieux Yankees. Et, en réfléchissant aux conséquences de la partie perdue, faute de pouvoir quitter Key West le jour même, Hodge Hurricane s'abandonna à une seconde crise avec vociférations, imprécations, menaces qui firent grelotter les vitres du post-office. Mais Turk réussit à l'éteindre, en se livrant à des actes d'une telle fureur que son maître dut le rappeler au calme. Cruelle nécessité, cependant, et cruelle blessure aussi pour l'amour-propre d'un partenaire, que d'être contraint de se retirer de la lutte, et pour le pavillon orangé, à s'abaisser devant les pavillons violet, indigo, bleu, vert, jaune et rouge. Eh bien, on a raison de le dire, il n'y a cœur et malheur en ce bas monde. Les bonnes et les mauvaises chances se frôlent dans la vie, se succèdent parfois avec une rapidité électrique. Et voici comment, par une intervention vraiment providentielle, la situation, si désespérée qu'elle parut être, fut sauvée. À 12h37, le sémaphore du port de Key West signala un navire à 5 milles au large. La foule des curieux assemblés devant le bureau du télégraphe se porta, Hodge Hurricane et Turk en tête, sur une hauteur d'où la vue embrassait la pleine mer. Un navire se montrait à cette distance, un steamer dont la fumée déroulait à l'horizon ses longs panaches fuligineux. Et alors les intéressés de dire « Mais ce navire vient-il à Key West ?» Et s'il y vient, fera-t-il relâche ou en repartira-t-il aujourd'hui même? Et s'il repart, sera-ce pour un port de l'Alabama, du Mississippi ou de la Louisiane, Nouvelle-Orléans, Mobile, Pensacola? Et enfin, s'il est à destination de l'un de ces ports, a-t-il une marche suffisante pour effectuer la traversée en 48 heures? On le voit, 4 indispensables conditions à remplir. Elles furent toutes remplies. Le président Grant ne devait relâcher à Key West que quelques heures seulement. Il en repartirait le soir même pour Mobile, et c'était un steamer de grande vitesse, l'un des plus rapides de la flotte marchande des États-Unis. Inutile d'ajouter que Hodge Hurricane et Turk avaient été admis à titre de passagers, que le capitaine Humper s'intéressa au Commodore comme le capitaine du Sherman s'était intéressé à Tom Webb. Aussi, sur une mer à souhait, par une légère brise du sud-est,
le président Kant donna-t-il son maximum de marche, soit une vingtaine de miles à l'heure, ce qui lui permit d'arriver à Mobile dans la nuit du 27. Le prix du passage généreusement réglé, Hodge Hurricane, suivi de Turk, sauta dans le premier train, qui franchit en 20 heures les 700 miles entre Mobile et Saint-Louis. Là se produisirent les incidents que l'on connaît. Difficulté avec un chef de gare à la station d'Herculanum, obligation pour Hodge Hurricane d'aller à Saint-Louis réclamer sa valise, rencontre de Harwist et Kimball, provocation adressée aux reporters, retour à Herculanum dans la soirée, départ le lendemain, coup de revolver échangé au croisement des trains, arrivé à Saint-Louis. De là, le Railroad amena le Commodore à Topeka le 30, puis par la ligne de l'Union Pacific à Ogden le 31, puis à Reno, d'où il partit à 7h du matin pour la station de Kidder. Mais lorsque le Commodore Hurricane serait à Kidder, il ne serait pas à Death Valley, le point qu'il devait atteindre dans l'État de Californie. Or, s'il existait une route plus ou moins carrossable entre Kidder et Death Valley, aucun service de transport n'y fonctionnait. Pas de relais, pas de stage. Faudrait-il donc faire à cheval, et en si peu de temps, près de 400 miles, aller et retour? Étant donné les sinuosités d'une route à travers un territoire si accidenté, c'eût été impossible. Lorsqu'il était à Saint-Louis, Hodge Hurricane avait eu la bonne idée de demander par dépêche à Sacramento si l'on pouvait mettre à sa disposition une automobile et la lui expédier à Kidder où elle attendrait son arrivée. La réponse fut affirmative. L'automobile, d'un système très perfectionné, attendrait à la gare de Kidder le Commodore Hurricane. Deux jours suffisaient à atteindre Death Valley. Deux jours pour en revenir, de telle sorte qu'il serait à Chicago avant le 8 juin. Décidément, la chance semblait revenir à cet ancien loup de mer. Et voilà, par suite de quels arrangements, l'automobile se trouvait le 1er juin à l'arrivée du train à Kidder et quittait cette petite ville en suivant la route de l'Est dans la direction de Death Valley. Étant donné la hâte avec laquelle s'effectuait ce voyage, on admettra volontiers que le Commodore Hurricane n'eût pas éprouvé les curiosités d'un touriste. C'était l'Union Pacific qu'il avait transporté à travers le Nebraska, le Wyoming, les montagnes rocheuses par la passe de Truckee à 1000 toises d'altitude, puis à travers l'Utah jusqu'à l'extrémité du Nevada. Il n'était même pas descendu de wagon, ni à Ogden pour voir Great Salt Lake City, ni à Carson pour visiter cette capitale. Il ne songea point à admirer Sacramento, la capitale de l'Eldorado californien, une cité qui fut surhaussée presque tout entière à la suite des inondations de l'Arkansas, cause de tant de désastres. Oui, on remblaya son sol de manière à dépasser le niveau des plus fortes crues, et les maisons furent relevées de 10 à 15 mètres, tout d'un bloc. Maintenant, solidement assise sur les bords de la rivière qui porte son nom, cette ville de 27 000 habitants a fort bon aspect, avec son capitole d'apparence architecturale, ses principales rues agréablement disposées et son quartier chinois qui semble détaché des provinces du Céleste Empire. Toutefois, si dans ces conditions un Max Real ou un Aristé Kimball eussent regretté d'avoir brûlé Sacramento, combien ces regrets auraient été plus profonds à l'égard de San Francisco. La métropole de l'État, qui compte 300 000 âmes, occupe une situation unique au monde, en vue de cette baie de 100 km², grande comme le lac Léman, au seuil de la Porte d'Or, ouverte sur le Pacifique. Il faut parcourir ces quartiers du monde élégant, ces larges artères d'une animation intense, la rue Sacramento, la rue Montgomery, où s'élève Occidental Hotel. Vaste à loger toute une colonie.
cette magnifique artère, à la fois le Broadway, le Piccadilly, la rue de la Paix, de la merveilleuse Frisco. Ces maisons éclatantes de blancheur, avec balcons et miradors à la mode mexicaine, avec leurs festons de fleurs et de feuillages, ces jardins où prospèrent les plus admirables espèces de la flore tropicale. Même ces cimetières, qui sont des parcs où fréquentent les promeneurs. Et à 8 miles, ce rendez-vous de Cliff House, dans toute la beauté de sa sauvage nature. Puis, au point de vue du commerce d'exportation et d'importation, est-ce que cette métropole n'est pas l'égale de Yokohama, des Shanghai, des Hong Kong, des Singapour, des Sydney et des Melbourne, ces souveraines des mers orientales? Et même, y fut-il arrivé un dimanche, le Commodore Hurricane n'aurait pas trouvé une ville morte, comme tant d'autres des États-Unis. Depuis que l'élément français y a pris une certaine prépondérance, pas autant que l'élément chinois, à beaucoup près, Frisco s'est donné des allures infiniment plus mondaines. Puis, en ce milieu californien, le Commodore eut rencontré des parieurs frénétiques engagés sur le match Hyperbone. San Francisco n'est-elle pas par excellence la ville des spéculateurs, la ville des trusts, confédération financière d'accaparement de toutes les moyennes industries similaires, où la passion du jeu se manifeste sous ses formes les plus violentes, où les fortunes se font et se défont en quelques coups de bourse comme sur des coups de dés, où le pouls bat toujours comme il y a quelques 50 ans, à l'époque de la fièvre de l'or. Et ces audacieux Californiens n'auraient-ils pas applaudi à l'emploi de l'automobile du 6e partenaire? Et Hodge Hurricane, un homme de tant d'estomac, ne fut-il pas devenu leur favori, bien qu'il eût à recommencer la partie dans des conditions si désavantageuses? Au total, ce qui excuse le Commodore Hurricane, c'est qu'il n'avait pas une heure à perdre. Et d'ailleurs, étant donné son caractère, il n'eut guère songé à visiter la Californie, même sommairement. Ses curiosités de touriste, on le répète, Max Real, peut-être Ariste et Kimball, auraient-ils voulu les satisfaire, à la condition d'en avoir le temps. Les multiples voies ferrées, les nombreux steamers, les auraient transportés à Mariposa, près de l'incomparable vallée du Yosemite, où affluent les visiteurs. À Oakland, en face de Frisco sur la côte de la baie, et dont la jetée, longue de près d'une lieue, finira par se développer d'une rive à l'autre. Au détroit de Carguinez, à Benicia, où les bacs à vapeur prolongent les railroads en transportant des trains tout entiers. À la charmante Santa Clara, dont l'union avec sa voisine San José ne tardera pas à s'accomplir. Au célèbre observatoire du mont Hamilton, à Monterrey l'Espagnol, devenue une station balnéaire recherchée pour l'ombrage de ses cyprès d'une espèce unique. À Los Angeles, sur la côte méridionale, deuxième cité de l'État, où l'on jouit d'un climat sans égal. Des arbres partout, eucalyptus, poivriers, ricins arborescents, orangers, bananiers, caféiers, théiers, caoutchouciers, des fruits toute l'année. Sanatorium très apprécié des Américains de l'Ouest. Enfin, peut-être aussi par une savante combinaison des horaires, le jeune peintre et le chroniqueur de la tribune auraient-ils pu pousser jusqu'à la frontière méridionale de l'État, où la jolie ville de San Diego, à l'air pur et salubre, au bord d'un estuaire praticable aux navires de fort tonnage, attend que l'exploitation des mines de borate et de carbonate de soude en fasse l'un des ports les plus considérables du Pacifique. Non, Hodge Hurricane n'avait rien vu, n'avait songé à rien voir, et vraisemblablement ne désirait rien voir pendant son passage à travers la Californie centrale. Ne se disait-il pas que c'était assez? Que c'était trop d'avoir à parcourir la région comprise entre Killer et la Vallée de la Mort. Un excellent véhicule, cet automobile, envoyé de Sacramento, et d'un système porté à la dernière perfection, le système Adamson, le plus généralement adopté en Amérique. Elle fonctionnait au pétrole et pouvait en emporter pour une semaine de locomotion. Dans ces conditions, même en cas qu'elle ne trouvât pas à renouveler en route sa provision d'huile minérale, cette automobile franchirait sans peine les 300 miles d'aller et retour. Tous deux, Hodge Hurricane et Turk, étaient donc assis au fond d'une sorte de coupé confortable. Le mécanicien en avant, avec un aide-mécanicien, ayant sous la main les appareils de direction et de marche. Cette fois, par dérogation à ses habitudes, le Commodore restait concentré en lui-même, et Turk ne parvenait pas à en tirer une parole. Il ne pensait à rien d'autre qu'au but à atteindre, hypnotisé par cette 63e case, si éloignée maintenant et dont il s'était tant approché tout d'abord. Et il ne s'agissait point de l'argent que lui coûtait ce dernier tirage, la dépense du train spécial, le coût de l'automobile, sans parler de la triple prime, $3,000 qu'il devrait payer à Chicago avant de recommencer la partie. Non, c'était la question d'amour-propre et d'honneur. C'était la honte, oui, la honte de se voir distancé par les 6 autres partenaires. Et, il faut l'avouer, la crainte de rater l'héritage de William J. Hyperbon. Bref, l'automobile marchait d'une allure rapide et régulière sur une route assez bonne à partir de Kidder que le conducteur avait déjà parcourue jusqu'à 10 vallées. Elle traversa quelques bourgades isolées au-delà des anciennes ramifications de la Sierra Nevada, dominée par le mont Winnet, dont la cime se dresse à près de 14 000 pieds dans les airs. Après avoir passé plusieurs creeks à gué, l'automobile obliqua vers le sud-est, franchit la rivière de Che-Opu-Wapa, de manière à rencontrer le village d'Indian Wells, au sortir des passes de Walker. Jusqu'alors, le pays n'était pas absolument désert. Des fermes s'y succédaient à longue distance, il est vrai. On croisait parfois des cultivateurs se rendant de l'une à l'autre, et aussi quelques détachements de ces Indiens Mohawks qui possédaient autrefois le territoire. Et, en gens qui savent ne s'étonner de rien, ils regardaient sans surprise ce véhicule mécanique. Le sol n'était pas encore dépourvu de végétation, des buissons de créosote, des groupes de mesquites, des bouquets de yucca, des cactus géants, dont quelques-uns mesurent jusqu'à 8 toises, toute la queue arborescente des forêts névadiennes. En somme, ce n'était pas là le fameux territoire de Calaveras et de Mariposa, celui des arbres phénomènes, le père de la forêt, la mère de la forêt, des géants dont la taille dépasse 300 pieds. Et si au lieu d'être envoyé à 10 vallées, Hodge Hurricane avait dû gagner la vallée de Yosemite, dans l'est de San Francisco, vers la partie centrale de la Sierra Nevada, ou plutôt, si c'eût été Max Real que sa bonne fortune y avait conduit, quel souvenir il eût conservé, même après les merveilles du parc national de Wyoming, de cet autre parc qui domine le mont Ciel à l'altitude de 2000 toises, de ses beautés naturelles avec leur désignation significative, la Grande Cascade, de 500 pieds, la Cascade du Printemps, le Lac du Miroir, les Arches Royales, la Cathédrale, la Colonne de Washington, tant admirée par des milliers de touristes. Enfin, l'automobile atteignit le désert, à la limite duquel se creusent les dépressions de Death Valley. Là, rien que l'immense solitude. Les hommes, les animaux ne le fréquentaient pas. Un ardent soleil tombait sur ces plaines infinies. À peine quelques traces d'une végétation rudimentaire. Ni chevaux, ni mules n'eussent pu s'y nourrir. Et il était heureux que l'engin propulsif n'eût besoin que de vapeur pétrolienne pour actionner le véhicule. Ça et là, seulement quelques foothills, collines de médiocre hauteur, entourées de chaparral, qui sont des fourrés de maigres espèces. À la chaleur accablante du jour,
succédaient ces nuits californiennes, sèches et froides, dont la rosée ne vient jamais adoucir les rigueurs. Ce fut ainsi que le Commodore Hurricane atteignit le 3 juin l'extrémité méridionale des Telescope Range qui encadre 10 vallées à l'ouest. Il était 3 heures de l'après-midi. Le voyage avait duré 50 heures, sans repos, sans accident. En vérité, c'est à bon droit que ce pays désolé, au sol d'argile, parfois recouvert d'efflorescences salines, a pu être nommé le pays de la mort. La vallée, qui le termine presque à la frontière de l'État de Nevada, n'est en somme qu'un canyon, large de 19 milles, long de 120, troué d'abîmes, dont le fond s'abaisserait à 30 toises au-dessous du niveau de la mer. Sur ses bords ne végètent, comme en cet aride territoire, que de minces peupliers, des saules d'une pâleur malalive, des yuccas secs et cassants à baïonnettes aiguës, des armoises infectes, et aussi 1000 touffes de ces cactus désignés en Californie sous le nom de pétalina, sans feuilles, tout en branches, véritables candélabres funéraires posés sur ce champ de la mort. Death Valley, ainsi que le fait observer Élisée Reclus, fut, sans doute à une époque géologique antérieure, le lit du fleuve qui se perd aujourd'hui dans le Soda Lake et que seul arrose maintenant le creek de la Margosa. Ses talus se hérissent d'aiguilles de sel, le borax s'accumule dans ses cavités et quelques dunes y mêlent leur poussière sablonneuse au courant atmosphérique qui la parcourt parfois avec une extrême violence. Oui, la vallée de la mort avait été bien choisie par l'excentrique testateur pour y envoyer le malchanceux partenaire, arrêté en pleine marche à la 58e case. Le Commodore Hurricane était donc arrivé au terme de ce difficile voyage. Il fit halte au pied de la crête des Funeral Mounds, ainsi appelés en souvenir de caravanes qui périrent dans ces tristes lieux. Ce fut à cette place même qu'il prit la précaution d'écrire un document attestant sa présence à Death Valley, le 3 juin. Document qui fut enterré sous une roche après avoir été signé de Turk et des deux conducteurs de l'automobile. À peine Hodge Hurricane resta-t-il 1 heure sur le seuil de cette vallée de la mort. Il n'avait en effet qu'à quitter au plus tôt cette triste contrée pour regagner Keeler par la route déjà suivie. Alors, ouvrant pour la première fois la bouche, il ne prononça que ce mot « Partons ». Et l'automobile partit, toujours favorisée par le temps, à travers la région supérieure du désert des Mohawks, en redescendant les passes de la Nevada. Et, sans accident, il rejoignit la station de Keeler 44 heures après, le 5 juin, à 11 heures du matin. En 3 mots, mais 3 mots énergiques, le Commodore Hurricane remercia le mécanicien et son compagnon qui avaient montré tant de zèle et d'habileté dans l'accomplissement de leur fatigante tâche. Et, se retournant vers Turk, « Partons, » dit-il. Le train spécial était en gare, attendant le retour du Commodore, prêt à démarrer. Hodge Hurricane alla droit au conducteur. « Partons, » répéta-t-il. Et le coup de sifflet donné, la locomotive s'élança sur les rails, déployant son maximum de vitesse et, 7 heures plus tard, vint s'arrêter à Reno. L'Union Pacifique se conduisit de la plus correcte façon en cette circonstance. D'ailleurs, commandé par ses inflexibles horaires, le Railroad n'aurait pu ni diminuer ni accroître leur délai. Le train traversa les montagnes rocheuses, le Wyoming, le Nebraska, l'Iowa, l'Illinois, et il atteignit Chicago le 8 juin à 9h37 du matin. Quel bon accueil le Commodore Hurricane reçut de ceux qui lui étaient demeurés fidèles en dépit de tout. Certes, ce faux départ, cette obligation de reprendre la partie à son début, témoignait d'une extraordinaire malchance.
mais il sembla que la veine revenait au pavillon orangé, avec le coup de dé dont il bénéficia le jour même de son arrivée à Chicago. 9-6-3. C'était la troisième fois que ce point avait été amené depuis le début du match Hyperbone. La première fois par l'Issiwag, la deuxième par l'inconnu XKZ, la troisième par le Commodore. Et, après avoir été expédié en Floride, puis en Californie, Odd Hurricane n'avait qu'un pas à faire pour gagner la 26e case, cet état de Wisconsin qui confine à l'Illinois et que n'occupait alors aucun des partenaires. Sa cote remonta dans l'échelle des agences et il fut repris à égalité avec Tom Queb et Max Real.